Titan Mag. T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé Dominique au micro et de l'ami fidèle
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. L'émission précédente était consacrée à Paul Delvaux et son musée. Notre magazine s'intéresse toujours à la création et s'emploie à la recherche de l'homme ou de la femme de l'ombre. Nous avons pensé à une dame d'allure fine et délicate qui soulève une énergie incroyable et porte à bout de bras des créatifs, des concepteurs. Elle reste à l'écoute de chacun d'eux et les aide à se propulser au-delà de leurs limites propres. Il faut une force de caractère, une croyance en l'individu pour ainsi prendre en charge leurs projets possibles. Cette dame, nous lui présentons un grand coup de chapeau et toute notre admiration pour l'œuvre fournie. Des projets sont en cours, toujours et encore. Sans relâche, elle se remet au métier pour tisser des liens indestructibles. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui cette grande dame qu'est Paulette Ciesla. Merci Paulette d'avoir accepté notre invitation et de parcourir ainsi ensemble la liste des chrysalides que vous avez aidés à sortir de leur cocon. Tout d'abord, Paulette Ciesla, quel lien avez-vous avec la création? Pensiez-vous approcher le domaine artistique? Et quels sont les signes qui vous ont poussé dans ce domaine?
Je dois dire que c'est Joseph, lorsque nous nous sommes rencontrés, qui m'a fait tomber dans la connaissance de ces nourritures que sont les arts. Et parce qu'auparavant, je n'avais pas été tellement formée sinon à l'opérette. Donc j'ai aimé ce monde des artistes. Nous fréquentons, nous aimons les artistes au point d'avoir maintenant une collection de des amis ou des gens pour lesquels nous trouvons du talent. Et moi-même, j'ai été amenée, au-delà des enfants que nous avons fait ensemble, j'ai été amenée à participer à l'œuvre de Joseph, notamment dans ses créations textiles. Bon,
D'ailleurs, il y a un secret bien gardé, mais nous ne saurons jamais. Les textiles ne prennent pas la poussière.
Il faut dire que le travail que nous faisons n'a rien de soyeux, de délicat, puisque on a beaucoup travaillé avec des fibres de sisal, qui sont des liens des bottes de paille et de foin qui servaient autrefois. Maintenant, on est passé au nylon. Mais en effet, c'est des travaux qui sont tissés très serrés et un coup d'aspirateur permet d'enlever les petites pellicules de poussière qui peuvent s'y mettre. Par contre, le textile craint beaucoup la lumière. Donc, il faut conserver les travaux textiles hors des rayons. Et sinon, tout va très bien.
C'est un travail qui est dur, parce que Joseph Ciesla, il est peintre et sculpteur, et on sait que la sculpture, c'est aussi un travail qui demande beaucoup de force. Et quand on voit vos travaux textiles tissés, ou je ne sais pas très bien comment il faut appeler ces sculptures, c'est aussi très monumental. Et très costaud, comme vous le disiez.
Enfin, modestement, à notre échelle, on a été influencé par les travaux des années 1970 qui venaient des artistes d'Europe de l'Est, qui bouleversaient la tapisserie, qui était murale. Et là, on s'est propulsé sur ce qu'on appelle la sculpture molle. Même si le terme n'est pas très beau. Mais effectivement, c'est des travaux qui sont tissés avec des fibres résistantes et dans lesquels on recherche malgré tout la lumière. On a fait énormément de tissages noirs a priori, parce qu'il y a énormément de reflets qui sont insérés par des fibres plus délicates.
Il y a aussi des teintures, donc. Voilà. Est-ce que c'est vous-même qui faites cela aussi, qui teignez aussi ces fibres?
Alors, on, au départ, oui, c'est nous qui avons teint. On était en plein dans les années 68-70 et on a fait des teintures végétales, mais on les a rapidement abandonnées parce que c'est plus fugace et on a mis l'accent essentiellement sur donc ces tissages qui sont nés, les embrûlures, à l'époque où il y a eu les problèmes en Pologne, et notamment le coup d'État en décembre 81. Et Joseph, ayant trouvé au cours d'une promenade un morceau de bois brûlé qui avait des reflets moirés, donc on est parti sur cette idée-là de l'arbre, enfin du bois calciné, mais pas complètement réduit en cendres, pour faire donc nos travaux. Et puis évidemment, emporté après par l'envie de faire une chose en entraînant une autre, on a fini par évoluer justement sur autre chose que l'idée de départ, qui était donc celle du bois calciné. Et puis voilà, comme la plupart des artistes, on a travaillé une dizaine d'années le textile et ensuite ça a cessé. Ça s'est terminé d'ailleurs à tout l'inverse par des... Tout à l'heure, vous parliez de chrysalide, et effectivement, ça s'est terminé par des travaux, des sortes de semences mises à l'abri, sous des bandelettes et dans des verres de laboratoire, qui étaient en plus cernés par du métal. Et finalement, ces chrysalides étaient un peu prémonitoires de la protection des graines dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui avaient même inquiété un peu.
Et donc, ces idées de ces travaux, vous partez donc là une dizaine d'années dans le textile et au fur et à mesure de vos travaux, de vos recherches, vous passez d'une chose à une autre. Par exemple, le bois, je sais qu'à Villefontaine ou dans d'autres villes, on peut retrouver des sculptures bois, cordes de Joseph.
Métal aussi.
Métal, oui. Et tout ça, j'imagine que c'est une suite logique dans vos recherches.
Alors c'est vrai qu'il faut rappeler peut-être que Joseph a travaillé dans l'industrie textile de nombreuses années, donc il avait la technique. Et comme c'est un homme qui n'a pas subi de formation d'aucune sorte, dans son esprit libre, il a toujours associé les matériaux selon son idée. Donc il peut y avoir du bois, de la fibre, du bronze, tout ça peut être mêlé. Mais ça, c'est son travail à lui. Moi, en ce qui me concerne, quand les travaux textiles ont été terminés, j'ai plutôt chevauché la terre avec lui parce que il s'est trouvé que nous avons rencontré une amie céramiste, Christine Fabre, et qu'elle a donné les premiers rudiments pour travailler, et puis ensuite, il faut apprendre par soi-même. Donc j'ai beaucoup aimé le travail de la terre, mais disons que moi je l'ai plutôt pratiqué comme une thérapie pour me faire du bien que pour faire des créations à part entière. Hein, parce que je pense que le travail de créateur, c'est une entreprise de tous les jours qui demande beaucoup de disponibilité, d'authenticité, et donc, voilà, ça peut pas se faire, ça doit se faire à part entière.
Et vous aviez différentes préoccupations, justement, qui vous empêchaient de vous plonger complètement de tête et dans la céramique, par exemple.
Oui, c'est-à-dire que moi, je privilégie le vivant. Hein. Et bon, avec entre les enfants, les petits-enfants, maman qui est maintenant décédée, et puis l'envie de me porter un peu vers les autres, j'ai commencé justement dans notre village à faire partie du groupe des bénévoles de la bibliothèque. Et puis, de fil en aiguille, j'aime bien, comme ça, travailler un peu dans mon périmètre, plus en acte qu'en parole, et essayer de créer du lien entre les uns et les autres.
Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous apportez aux autres ?
Qu'est-ce que j'apporte aux autres ? Je ne sais pas. Après, chacun prend ce qu'il a envie. Moi, c'est peut-être une disposition que j'ai depuis très longtemps, hein, d'aimer le contact et puis d'être touchée par la souffrance humaine. C'est pour ça que même enfant, je m'occupais d'une vieille dame assez assidûment. Et puis après, j'ai dû faire ma part avec les enfants et puis dans le travail avec Joseph. Mais j'ai milité à Amnesty International pendant de nombreuses années. Je suis toujours membre, mais sans être active comme auparavant. Et donc aujourd'hui, c'est plus dans la proximité que je pense on peut, avec Joseph, sachant qu'on a énormément d'amis, on peut essayer de ramener dans un lieu qui est un peu étonnant, mais est très réussi, qui est la Grande Chevrotière d'Arthas, où on commence de mettre en place des expositions et des manifestations diverses.
C'est un très beau lieu. C'est un lieu. Si on parle du lieu, c'est un lieu communal. Il appartient à qui ?
Alors, c'est un lieu. Cette grange, elle s'appelle Chevrotière, non parce qu'il y a eu autrefois des chèvres, mais parce que c'était un lieu dit Chevrotière pour la bonne raison qu'il y avait une production de chaux au départ. Et donc maintenant, il y a une ferme qui a été réhabilitée dans les années 2010. Et qui a des espaces intéressants, une très belle acoustique, ce qui permet d'y faire à la fois, d'y recevoir des concerts, des spectacles, et d'attirer un public qui est... Bon, nous, on essaye d'être un peu exigeants et de faire ce que les autres ne proposent pas, mais ça vient aussi de notre capital artistique qui nous porte à présenter les amis, encourager de jeunes talents, etc. quoi.
Il faut oui. y aller souvent quand on entend dire oui, mais c'est trop fort, les gens ne viendront pas, etc. Il ne faut pas parler comme ça. Il y a en même temps une éducation et une oreille et un regard à aider à s'ouvrir.
Oui. Je pense, c'est notre point de vue, que nous organisons donc maintenant de manière régulière une biennale du dessin. On a commencé la première en 2012, durant l'été, juillet-août. Comme c'était tout nouveau, Joseph a présenté ses propres travaux l'année suivante, mais qui dit biennale dit tous les deux ans, donc... Cette année 2014, on a donc présenté une seconde biennale dans laquelle on a fait un peu fort, puisque on a eu, entre autres exposants, le peintre Vladimir Velikovitch, qui est un homme qui parle des sévices que l'homme fait subir à l'homme. Et c'est un très beau travail qui est un peu difficile d'accès, mais qui finalement a été bien reçu. Il y avait simultanément un graveur polonais qui avait de très belles...
Magnifique, moi j'ai vu des très belles gravures de ce...
Oui, d'une technique assez époustouflante. Et puis deux jeunes talents, Noémie Huard et Clémence Barden, qui sont des jeunes femmes qui galèrent un peu, hein, parce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de son art. Beaucoup plus, je pense, que nous-mêmes qui... Ça n'a pas été linéaire, hein, mais on a réussi à vivre. Donc, puisque Joseph nous avons démarré en 1968 et qu'on a fini par... On finit par être encore debout et en ayant fait ce que l'on avait envie de faire. Hein.
FM 97.1, avec notre invitée Paulette Ciesla, nous venons d'entendre de ce bel album Couleurs de Pologne, miniature du XXe siècle, Paris-Varsovie, avec au piano Juliette Ciesla, à la clarinette Alexis Ciesla, et il s'agissait de danse de Casimir Serocki. Alors pourquoi ce choix, Paulette ? Difficile à trouver.
Non, le choix, il était aisé puisque nous avons des enfants musiciens et qu'ils ont édité ce disque là en 2014, tout récemment, pour honorer leur papa qui a eu des soucis de santé un peu graves. Et je pense que c'est... Voilà, il lui est dédicacé. Donc, la Pologne, parce que Joseph... a été très marqué, même s'il est venu en France très jeune. Il a été marqué par son vécu avec ses parents, qui devaient repartir en Pologne. Et finalement, il est resté sur le sol français, mais la Pologne étant un pays relativement martyrisé, hein, on sait que... J'ai parlé tout à l'heure des embrouillures qui étaient nées au moment du coup d'État en Pologne. Et... Bon, la Pologne est chère à son cœur et au mien, parce que les Polonais sont formidables. On y est allé de nombreuses années, notamment avec même des convois humanitaires. Et voilà. Et ça s'est transmis un peu par la cuisine aussi, hein, puisque on cuisine volontiers polonais à la maison. Joseph est d'ailleurs excellent à la cuisine et les enfants prennent aussi des inspirations à la maison mère.
C'est cela, je pense, qui doit jouer. J'ai vraiment un coup de cœur pour la façon de jouer de Juliette. Je l'aime beaucoup. Mm-hmm. C'est énormément. Il doit y avoir. Et puis Alexis également. Mm-hmm. C'est autre chose. Avec la clarinette, ça peut paraître plus dur par moment. Mm-hmm. Mais il y a, je crois que c'est ce mixage, comme il disait, Paris-Varsovie, qui doit faire que des sentiments viennent comme ça à fleur de peau et ce mélange du papa et de la maman qui doit jouer.
Et l'âme polonaise est musicale. Alors, comment avez-vous fait pour avoir tant d'enfants musiciens?
Ben, disons que ça a été un peu le hasard. Hein. Bon, moi, j'ai fait un peu de piano quand j'étais jeune, mais ce n'est pas ça qui a pu les marquer. Donc, c'est plutôt à Saint-Jean-de-Bournay. À l'époque, il y avait une école de musique menée par un monsieur qui savait faire aimer la musique. Donc, c'est lui-même qui, à un moment donné, m'a signalé qu'on avait des enfants qui semblaient être doués et qu'ils allaient perdre leur temps avec lui. Donc, il fallait les inscrire au conservatoire à Lyon. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, il est évident qu'on on ne fait pas des études musicales quand on reste à Arthas, tant et si bien qu'ils ont donc, très jeunes, ils nous ont quittés pour aller faire leurs études à Lyon, où par chance, il y avait mes parents, et notamment maman, qui s'est beaucoup occupée d'eux. Et c'est vrai qu'on a des enfants qui, donc du coup, ont dû se mesurer tout seuls à la vie, hein, puisque nous, on était à l'écart, tout en étant très attentifs, bien sûr. Moi, j'assistais régulièrement aux auditions qu'ils proposaient pour apprécier si, ils étaient partis sur la bonne voie et éventuellement les dissuader s'il me semblait que par rapport aux autres, ils étaient en retrait. Et bon, ils ont persévéré et donc ils ont fait chacun des conservatoires supérieurs, Alexis à Genève et à Paris, Juliette à Paris. Et c'est vrai qu'ils ont tous deux une grande sensibilité parce que ils n'ont pas le désir d'être devant à tout prix. Donc ils sont peut-être trop introvertis, enfin, même si je n'ai pas tout à fait ce sentiment, mais disons que ils ne savent pas marcher sur les mains des copains et que peut-être aussi justement leur l'héritage qu'ils ont eu leur fait en sorte que bon, ils ont des choses à dire et ils les disent de manière profonde et sensible.
Et ils ont fait pas mal de CD aussi.
Alors, Alexis, c'est un garçon qui a énormément d'initiatives. Hein. Il a déjà un très grand atout, c'est que c'est un pédagogue formidable. Donc, il a des élèves de tous âges. La clarinette est prospère là où il l'enseigne. Il a écrit des albums qui font que... Il me disait cette semaine qu'il était attendu à Lille par un professeur qui est devenu professeur de la classe à Lille, une classe de clarinette à Lille, et qu'il avait rencontré à Bellegarde quand il avait 20 ans ou 25 ans. Donc il en a aujourd'hui 47, ils sont restés en lien, et ce garçon l'a invité pour faire une journée autour de l'œuvre d'Alexis Ciesla. Tout ça pour dire qu'il a commencé par à monter un octuor, ensuite un quatuor. Ils ont créé Dumka Clarinette ensemble avec des copains du conservatoire et puis avec Yuval Misenmacher qui était un peu leur papa dans le groupe. Et puis, par la suite, bon, c'est assez difficile de vivre de la musique et puis quand on est nombreux, de savoir se retrouver, encore une fois, bon, il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus de, comment on dit, d'impresario, enfin de gens qui s'intéressent à leur musique. Donc ça s'est finalement dissous et lui n'a pas été en panne puisqu'il s'est mis à composer et qu'il fait de très belles œuvres qui sont assez engagées puisqu'il a fait selon une demande qui lui a été faite par c'est pas Adol mais c'est dans le Jura, je ne me souviens plus du nom, donc un concerto en hommage à Nelson Mandela. Et de même il vient d'écrire aussi d'écrire la partition et avec Sigrid Baffer, une jeune femme écrivain qui, ensemble, ils ont mis du temps, mais ils ont fait un très bel album qui reçoit tous les prix aujourd'hui et qui s'appelle Albe, l'autre moitié, et qui parle d'un voyage d'une grand-mère et de sa petite-fille en Europe de l'Est pour retrouver une mélodie. Quant à Juliette, Juliette, elle est l'épouse d'un restaurateur, Jean-Claude Marlins, au restaurant de l'Alouette, et elle mène sa vie propre en enseignant au conservatoire d'Auxerre. D'ailleurs, elle me racontait que récemment, ils avaient, avec les professeurs, comme elle est très éloignée, ça veut dire que les professeurs vivent ensemble dans ce conservatoire à Auxerre, et qu'ils ont eu l'idée ensemble de prendre du temps pour monter une programmation. Et c'est assez drôle puisqu'ils avaient envie de faire du tango et ça s'appelle Buenos Aires. Ouais. Voilà, je le dis comme il faut. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en train de mûrir. Et puis voilà, elle fait quelques concerts à Paris ou ailleurs, souvent en duo. Et puis maintenant, on a la chance de l'avoir à proximité quand elle joue au restaurant de l'Alouette, puisqu'ensemble, ils ont créé un lieu qui est une sorte de carrefour des arts, où il s'y fait des manifestations intéressantes, importantes, et voilà, qui, pareil, sont de chercher une sorte de rayonnement artistique.
C'est un lieu donc, où il y a des expositions, des concerts aussi.
Oui. Oui. Voilà, on peut dire qu'ils ont trouvé un tempo avec non seulement ce qu'ils appellent les dimanches de l'Alouette, où ils reçoivent donc des musiciens sur le coup de 17h en milieu d'après-midi, hein, avec un petit apéritif intermède et puis une seconde partie. Et donc c'est Juliette qui fait les choix, pareil pour inviter des amis ou de jeunes talents. Et comme le lieu a été étudié pour qu'au niveau phonique, ce soit de qualité, c'est très réussi. Et de plus en plus, il y a une fidélité à ces dimanches de l'Alouette.
Dans ce restaurant galerie, donc Jean-Claude Marlins, je donne tout de suite l'adresse, 475 route de Crémieux à Bonnefamille. En pianotant sur le site, vous trouverez toutes les informations. Et vous-même, puisqu'il s'agit d'une galerie, vous êtes commissaire de ce restaurant-galerie L'Alouette.
Alors, je ne suis pas seule en piste pour les choix des artistes. Donc, pour les musiciens, bien entendu, c'est Juliette qui s'en occupe. Pour les plasticiens qui accrochent des œuvres au mur, c'est des choix qui sont faits en accord avec Jean-Claude, bien sûr, Jean-Claude Marlins. Et voilà, on fait des propositions avec Michel Sautet, qui est aussi un ex-galériste et qui a tenu une galerie à Vienne. Voilà, et on a eu... Enfin, là, va être décrochée une exposition d'Élise Darmour, qui était un très beau travail sur qu'elle a appelé Ramification, et qui est un beau travail sur le végétal, et va démarrer très prochainement, ce jeudi même, une exposition d'un dessinateur de bande dessinée.
Comment s'appelle-t-il ?
Qui s'appelle Alain Cocor. Voilà. Et ça se fait en partenariat avec la librairie Luciole à Vienne et Alain Bélier. Donc voilà, c'est un lieu qui est très ouvert, diversifié, qui accueille des artistes un trimestre. Donc chaque trimestre, il y a un nouvel accrochage. Et cette même soirée, il y a donc un moment musical, également choisi par Juliette. Il y a un moment poétique, éventuellement une lecture. Et puis, ça se termine par une convivialité de restauration, genre table d'hôte, c'est-à-dire, bon, on ne se connaît pas forcément et on fait connaissance et voilà, on s'enrichit mutuellement.
Et pour rajouter, puisqu'on nous sommes dans ce restaurant galerie de Bonne Famille, il s'y donne également des cours de cuisine, une nouvelle formule à savoir enseignement.
Alors, donc, oui, allez directement
sur le site.
Sur le site.
Pour rencontrer Jean-Claude.
Alors, il y a un numéro 04 78 40 06 08. Ou bien vous pianotez restaurant-alouette.com.
Elle compose l'autre moitié. C'est une moitié étrange, faite de briques et de notes, de blanches, de noires et de vertes. Une mélodie frottée au chaos de la route, sucrée comme une tarte d'anniversaire et amère comme une nuit d'attente. Une mélodie qui vous berce l'âme comme un voilier, pleine de rires et de cris à la fois, tantôt frêle comme un brin d'herbe, tantôt charpentée comme un chêne millénaire. Une mélodie chargée de terre rouge qui sent le sel et la pluie noire de Ruzice. Une mélodie aux yeux d'orage et aux chevilles de Vendamia. Une mélodie qui marche au pas cadencé avant de s'envoler. Au matin, quand Baka s'éveille, Tallinn lui joue ce qu'elle a composé.
FM 97.1 avec notre invitée Paulette Ciesla qui vient de nous faire entendre un morceau d'un CD, en fait un album CD qui s'appelle Paulette...
Albe, l'autre moitié. J'en ai parlé, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure et c'est une création donc qui a un grand succès et qui est une composition originale. Voilà, c'est une...
C'est un très beau graphisme.
Un très beau graphisme, effectivement. Et puis, le conte est dit par Elsa Zilberstein, donc, qui a une très belle voix aussi pour narrer ce conte.
Avec l'illustration Barou et le texte de Sigrid Baffert.
Voilà.
La musique, Alexis.
Voilà. Et Sigrid est une femme dont je vous conseille aussi la lecture des livres. Elle écrit beaucoup pour l'adolescence et elle parle vraiment connaissance de cause. Ce sont toujours des sujets un peu graves, mais qu'elle sait traiter avec beaucoup d'ironie. Et elle a une écriture très vive, incisive, mais très belle.
Un livre, un CD aux éditions des Braques. Il a reçu le prix du livre audio « Lire dans le noir », un coup de cœur Charles Cros, vraiment...
Oui, il fait un beau chemin et même, moi je l'avais pressenti quand Alexis nous a montré les premières moutures et je pense même que si tout voulait aller pour le mieux, ça pourrait être devenir un film d'animation intéressant.
Ah, il pourrait même peut-être faire un deuxième album, une suite.
Mais je crois que c'est, il en est question.
Très bien. Nous avons parlé tout à l'heure d'un magnifique lieu qui s'appelle la Grange Chevrotière. Quels sont les prochains événements que nous pourrons aller voir là-bas?
Il y a du jazz, je crois, très prochainement.
Le 21 février, du jazz.
Alors c'est vrai que la Grange Chevrotière fait partie des lieux qui ont été repérés par l'association AIDA, qui organise donc le festival Berlioz à la Côte-Saint-André. Et depuis quelques années, il nous envoie dans le cadre de ce qu'ils appellent les allées chantes, c'est-à-dire le rapprochement entre musique et lieu particulier, donc des concerts. L'entrée est gratuite et c'est de haute qualité. Et donc, on a eu la chance de découvrir que le samedi 21 février, on allait pouvoir entendre François Rollin, qui est pianiste, et Louis Claviste, clarinettiste et saxophoniste connu et bien reconnu dans toute l'Europe et que nous-mêmes avons connu lorsqu'il était très jeune, en un temps où on fréquentait également ces lieux où sévissait Colette Magny.
Le jazz, Louis Claviste.
Voilà, et puis donc un autre concert qui sera aussi proposé le samedi 18 avril avec Gagarine et sa guitare et son accompagnatrice, Sophie Martel. Voilà, alors ça, c'est un volet des manifestations qui se font à la Grange. Il y a également des spectacles théâtre. Et nous, notre point fort, puisque évidemment, en tant qu'artiste, on propose donc une biennale du dessin et les expositions intermédiaires. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est le chemin. Et nous, avec Pascal Chauvin, qui est donc l'adjoint à la culture, on a décidé d'aborder plutôt le chemin forestier et donc de parler de l'arbre avec des week-ends tous les 15 jours où on recevra des intervenants. Donc on aura donc alors c'est pareil, le calendrier il faudra peut-être le consulter sur le site de la communauté de communes du Pays Saint-Jeannet, mais ça devrait démarrer donc par une conférence, parce que il y a des artistes de tout poil dans notre famille et entre autres le garçon qui est entre Alexis et Juliette, qui s'appelle Yvan et qui est élagueur. Et c'est un artiste aussi dans son genre, parce que non seulement il traite l'arbre comme un être vivant et avec une grande déontologie, mais de plus, il s'intéresse à tout ce qui est du cycle de la vie, c'est-à-dire les oiseaux, qu'il connaît très bien, et les insectes, les papillons. Et je vous convie donc à venir l'écouter à l'auditorium de la communauté de communes le 28 mars, le samedi 28 mars, où il va parler de l'arbre et de la nature qu'il occupe et qui va avec.
Et ce sera également dans la grange, cette conférence?
Non, elle sera à l'auditorium de la communauté de communes, parce qu'ils ont Claire Dobost, qui est donc la présidente du syndicat d'initiative et qui a le souci de fédérer un peu tout le monde. Elle a pensé que plutôt que de faire une conférence à Arthas, c'était mieux de la proposer à l'ensemble des communes de la communauté du Pays Saint-Jeannet. Donc c'est pour ça qu'elle se fait à l'auditorium de la communauté de communes, qui est dans la zone de Basse-Écharrière.
D'accord. Dans quelle commune?
C'est sur Saint-Jean-de-Bournay.
Ah, et Saint-Jean-de-Bournay.
Oui.
D'accord.
Okay. Voilà. Donc, comme je le disais, Yvan démarre donc par cette conférence sur l'arbre. Et puis ensuite, il y aura des intervenants sur la, la production du bois, et donc le charbon de bois et son corollaire, évidemment, la déforestation. Bon, il y aura aussi un temps pour les instruments de musique avec des musiciens. Et puis, également la présentation d'œuvres à partir d'écorce. C'est Hélène Forêt qui est invitée, qui travaille les écorces et qui accentue le travail que font sous les écorces, les petits parasites, voilà, avec de très belles soies. Voilà. Mmh. Et puis, nous avons invité aussi un tourneur sur bois, Thierry Martenon, qu'on a connu il y a très longtemps et qui fait un très beau travail d'assemblage. Il y aura également un graveur sur bois. Et je ne parle pas de tout le monde parce que je cite surtout ceux que nous invitons nous-mêmes, que nous connaissons, mais on est d'autres partenaires et chacun invite les personnes qu'il connaît pour des week-ends différents. Voilà, et puis sinon, évidemment, il y aura au mois de juillet-août une exposition plus particulièrement orientée sur le dessin, la peinture, qui traitera évidemment de l'arbre, du chemin, avec tous les artistes qui seront présents.
Il faut dire aussi que Joseph Ciesla, votre mari, va prendre en charge quand même quelque chose auprès des enfants dans les classes. Il va avoir une action. Mmh.
C'est vrai qu'il adore s'adresser à la jeunesse, hein, et il a fait ça très souvent, des interventions avec des enfants. Donc il a déjà entrepris et tous les enseignants sont partants, ce qui est formidable. Donc pour ensemble, ils vont essayer de sensibiliser les enfants à l'arbre et puis ensuite donc créer faire des constructions, voilà, qui seront des cadoles, des abris imaginaires, voilà, qui vont bâtir ensemble. Il y a également des adolescents qui doivent venir travailler avec Marc Pédou, qui est un autre ami sculpteur, qui est également un dresseur de pierre et un éleveur de bonsaï, entre autres. Voilà, donc il y a toute une programmation qui devrait être très riche et qui va aussi nous relier les uns aux autres, forcément.
Parce qu'en fait, vous êtes très, très marqué par tout ce qui se passe, par l'écologie. C'est aussi, quand on vous connaît, oui, c'est un thème qui vous tient à cœur.
Déjà, le fait d'habiter en pleine campagne, c'est un choix qui n'est pas forcément envié par tout le monde. Hein. Nous, on aime ça. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir rencontré Pierre Rabhi il y a déjà au moins 25 ans, il est devenu un ami, on est toujours en lien avec lui, et sa parole pour nous est essentielle. C'est vrai que c'est un homme qui a jamais cherché à faire beaucoup de bruit, mais qui a réussi à rassembler beaucoup, peut-être notamment au moment où il a été candidat à la candidature de la présidence de la République. Bon, ça, c'était une manière pour lui d'élargir son public. Hein. Mais aujourd'hui, bon, il a fait beaucoup d'émules. Il a beaucoup de disciples. Enfin, il n'aimerait pas ce mot. Donc, plutôt des adeptes qui aussi travaillent dans le même sens que lui. Et notamment tous ces mouvements qu'on appelle les colibris, qui nous paraissent essentiels, parce que c'est vrai que seul, on fait pas grand-chose, mais quand on s'y met tous, même si on fait que des gouttes d'eau pour arrêter le feu, on doit pouvoir améliorer l'état de notre société.
Et d'ailleurs, Pierre Rabhi retournait régulièrement en Afrique aussi comme expert, ouais. On lui demandait.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Il a déclenché beaucoup de choses en Afrique, au Mali. D'ailleurs, il est bien en peine aujourd'hui avec les événements qui s'y passent. Mais il a commencé par le Burkina Faso. Voilà. Où il y a maintenant des formations agroécologiques qui marchent bien et qui démontrent que même sur une terre desséchée, sur une terre aride, avec sa manière de cultiver, notamment le compostage, le recyclage de tous les déchets, on peut à nouveau créer de la fertilité et se nourrir surtout, puisque c'est bien le grand problème là-bas.
C'est très étonnant d'ailleurs le compostage, parce que ce n'est pas du tout de la même façon que nous l'avons appris ou qu'on nous a inculqué au fur et à mesure. Ça reste vraiment dans cette écologie, une autre façon de voir les choses et de les approcher.
Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Mais bon, la terre, elle est nourricière, hein, en premier lieu. Donc, il faut bien la préserver. Et Pierre Abyss ne cesse de redire qu'on est, on va dans le mur et qu'on doit faire chacun un effort pour que la terre, voilà, ne périsse pas et ne soit pas ensanglantée, parce qu'il a une manière de dire que l'homme, quand il se retourne, derrière lui, il a une traînée de sang, et que la nature peut très bien se passer de l'homme et pas l'inverse, bien sûr.
Oui, je crois que quelqu'un parlait des vers de terre, que même si l'homme disparaissait, les vers de terre resteraient encore vivants, et que finalement les vers de terre étaient plus résistants que les hommes.
Toujours à Arthas, vous avez eu cette expérience de Maillon-Tout.
Oui.
Et qui, vous parliez tout à l'heure que vous aimez l'approche du monde, des gens, des proches, de la proximité. Et Maillon-Tout vous a aidé dans ce sens-là, à rencontrer du monde, à échanger.
Maillon-Tout, c'est presque devenu un slogan dans notre secteur. Il a été lancé l'année dernière parce que on s'est mis en réseau entre la médiathèque et Enfance et Jeunesse. Donc chacun fait son travail de son côté, et l'idée de Maillon-Tout, le thème de l'an dernier, c'était le fil. Cette année, c'est le chemin. Et le fil, effectivement, c'est le fil qui relie. Hein. Et on est donc parti sur le yarn bombing qui a été déclenché aux États-Unis et qu'on a repris à notre compte pour tricoter et habiller le mobilier urbain. Alors c'est ce qui a été fait dans toutes les communes qui ont été participantes, et ça a donné de très beaux résultats. Alors bon, c'est toujours regrettable qu'il y ait quelques vandalismes qui donnent un peu de désespoir, mais en même temps, je crois qu'il faut continuer. Donc, le thème de cette année restera donc le Maillon-Tout, avec de la poésie, avec des créations diverses, et puis l'occasion donc de parler de la forêt, hein, parler de la forêt, et puis de parler de ce qui rassemble. Alors, c'est vrai que je disais tout à l'heure que l'homme, Pierre Abbé, dit très justement que l'homme, s'il se retourne, il voit derrière lui une trace de sang. Et c'est vrai que dans ce monde qui est bien violenté, je pense qu'on peut apporter chacun son écho, sa part, même infime. Mais quand on entend Boris Cyrulnik dire que l'impact que les bonnes paroles ont sur le cerveau des enfants, je pense qu'il faut se préoccuper effectivement de ce qui atteint aujourd'hui beaucoup d'enfants dans le monde et qui fait qu'on ne va pas s'en sortir, quoi. Une escalade sans fin. Donc nous qui avons quand même beaucoup reçu, on peut aussi, je pense, donner... Bon, plus on donne et plus on est riche, quoi.
Lucien Jacques, Credo. Je crois en l'homme, cette ordure. Je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte. Je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce grelot, cette plume au vent, ce bout de feu, ce fouille-merde. Je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire de mortel et d'irréparable, je crois en lui. Pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis surtout et avant tout, pour le simple accueil d'un berger.
Couleur FM 97.1, avec notre invitée Paulette Ciesla, qui vient de nous faire entendre Poésie partagée, numéro 6 d'André Lénart, dans Credo de Lucien Jacques. Pourquoi ce choix, Paulette?
Ben, le choix d'André Lénart, parce que c'est un vieil ami, au sens amical du terme, qui a été très entreprenant. Il est pasteur, il a de nombreux enfants, et il a créé une association qui s'appelle Trièves Palestine. Et par cette association, j'ai eu l'opportunité de partir après d'autres dans un village en Palestine, à proximité de Bethléem, un village qui s'appelle Al-Masara, et qui m'a permis de vivre 15 jours avec les habitants à l'occasion du ramassage des olives, ce qui permettait de se parler sans se parler vraiment, parce que c'était un peu compliqué, et puis en même temps de vivre les événements qui se passent là-bas. Hein. Bon, les problèmes liés au mur. J'ai été très frappée parce que nous sommes allés dans la vallée du Jourdain, qui est décrite comme une vallée où coule le miel. Et en fait, les terres ont été spoliées et il y a des oasis magnifiques, évidemment, parce que l'eau a été détournée au profit de ces cultures. Donc les gens vivent dans des conditions épouvantables. Les colons se servent d'eux puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance que de travailler dans ces plantations. Voilà, ça m'a beaucoup beaucoup ébranlée. Et je suis allée aussi à Ramallah, enfin, vécu quelques manifestations, les manifestations du vendredi, justement contre l'occupation israélienne. Et bon, tous ces voyages me laissent penser qu'il faut vraiment, autant que possible, faire place à la bienveillance, parce que comme le disait Gandhi, tant qu'on rendra œil pour œil et dent pour dent, le monde va finir par être aveugle et édenté. Donc cherchons à nous, sans surtout ne pas être passifs, bien sûr, hein, mais je pense qu'on a tous une part à prendre, et que et les femmes, dans ce travail d'amélioration de la vie, elles prennent une grande part, et je tiens mon chapeau à toutes les Louise Michel, Simone Veil, Gisèle Halimi et autres qui font un travail formidable, et puis toutes les inconnues, bien sûr, pour essayer que la femme ait toute sa place.
Et que pouvons-nous faire? On se sent impuissant. Je ne sais pas, d'y avoir été, est-ce que vous voyez mieux le problème?
Oui, je pense, effectivement. Oui, c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre. C'est pour ça que je comprends peut-être un peu mieux les problèmes qui ont été soulevés par les caricaturistes. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des croyants musulmans qui font leurs prières six fois par jour, qui ont une grande dévotion, mais en toute simplicité. Moi, c'est comme si on insultait ma mère aussi. C'est vrai que je deviendrais rouge. Donc, je crois que enfin, j'ai un sentiment un peu partagé sur la limite à ne pas franchir. On dit bien qu'elle s'arrête là où celle des autres commence.
Et c'est un pays qui est magnifique. Je veux dire, la nature, au départ, c'était un coin qui était superbe et puis qui décline justement par ces détournements d'eau. On va
peut-être pas rentrer dans un domaine plus politique parce que c'est délicat. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un pays, si on veut bien s'intéresser à la question, c'est un pays occupé. Donc si on se met à leur place, on comprend la rage de la jeunesse, puisque moi j'ai vu dans la famille où nous étions logés, qu'il y avait un garçon qui était à l'université et qui devait tous les jours passer un mur notamment celui de Bethléem qui est géant, et systématiquement il arrivait en retard à ses cours parce qu'il était retenu sans raison. Et ce qu'il nous demandait, ce qui a été fait d'ailleurs par l'association Très Palestine, c'est d'installer Internet de manière à ce qu'ils puissent prendre leurs cours éventuellement par ce biais, puisque évidemment tous les cours étaient toujours tronqués. Donc ça rappelle un petit peu les problèmes qu'il y avait en Pologne dans les années 80, où nous sommes allés très, très régulièrement, très souvent, où il y avait un raffinement pour qu'il manque toujours quelque chose et que les gens doivent faire la queue pour mendier toujours quelque chose. Donc c'est cette affaire, cette attitude de mépris qui, je trouve, est très difficile et qui finalement crée des haines, quoi. Donc c'est, alors que, comme on le sait, c'est quand même l'amour qui devrait gagner et tout résoudre.
Et ce pasteur en Palestine, est-ce qu'il fait des choses concrètes? Vous venez de dire peut-être la formation sur Internet, enfin suivre des cours sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres...
Lui, il a été... André Lénard, le pasteur, a été à l'initiative de cette association. Mais aujourd'hui, il a passé le relais. Mais cette association, elle comprend de nombreux membres. Donc il y a régulièrement, chaque année, quelques individus qui partent au village d'Al-Massara, puisque c'est pourquoi se disperser plutôt. Donc on a réussi à leur donner un peu d'autonomie en les aidant à tondre les moutons. Donc on a réussi à leur faire passer une tondeuse, qui n'a pas été si simple. Et puis nous-mêmes, on s'est employés, durant les 15 jours on était là-bas avec les autres amis, de faire en sorte qu'elle monte un atelier de couture aussi, pour à la fois travailler pour elle, mais aussi faire des créations qui se vendent, quoi, qui ne soient pas juste dans la tradition. Et d'ailleurs, régulièrement, on participe à la venue de quelques garçons ou quelques filles qui viennent elles-mêmes dans le Trièves, qu'on arrive à faire passer, enfin qui arrivent à passer avec beaucoup de persévérance, il faut s'accrocher. Mais bon, voilà, c'est possible. Quand on est en guerre, il faut trouver des façons, des biais pour malgré tout arriver à créer une relation enrichissante mutuellement.
Merci beaucoup, Paulette, pour ce tour, ce cheminement.
Merci à vous.
Nous sommes passés à l'artiste, oui. Au lieu, et un peu à la famille, au partage. Oui, c'est une belle leçon de choses. Merci beaucoup, Paulette.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Daniel.
Merci, Tita.
Merci, Laurent. Et à très bientôt.
Bye bye.
Merci, au revoir.